Alors, je vous invite à lire dans Éphésiens 6, au verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Disons tous ensemble, prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Seigneur, nous te prions afin que cet enseignement puisse nous aider chacun à revêtir ses armes et, Seigneur, à gagner le combat. La victoire est à nous, Seigneur, au travers de toi et au travers de l'obéissance à ta parole. Alors merci de nous donner cette révélation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je reviens à cette phrase du chant « Tu es en rempart devant nos ennemis ». Comment est-ce que vous imaginez ce rempart ? Le comment de la question de la protection. Dieu nous protège, il y a une protection. Il y en a qui ont déjà expérimenté les attaques spirituelles ici ? Non, personne ? Ah bon, levez la main, que vous me rassuriez. Voilà. Il y a des attaques spirituelles qui souvent se passent dans le naturel. Et dans le naturel, on a tendance à croire que c'est les gens qui sont méchants. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de gens méchants, mais les gens méchants sont rendus encore plus méchants par des influences spirituelles qui sont derrière. C'est un peu comme un aimant hein, que vous mettez, vous accélérez l'attraction par la puissance de l'aimant. Donc il y a bien sûr une méchanceté naturelle, puisque chaque homme, chaque être humain sur cette planète est pécheur, y compris les chrétiens. Même si nous sommes sauvés, nous restons pécheurs et nous devons confesser nos péchés pour que Dieu nous efface et les justes pour les effacer à chaque fois que nous confessons. Si nous ne confessons pas, il ne les efface pas, donc il faut bien confesser nos péchés. Il est vrai qu'il y a des attaques naturelles. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, etc. Voilà. Je sais qu'Olivier, il aimerait bien être aimé de tout le monde, voilà. C'est vrai. Sauf que ceux qui ont suivi Paul Goulet, leadership, hein, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, dès que vous êtes en leadership, au moment où vous prenez votre poste, il y a déjà 20% qui sont contre vous. Déjà, voilà. Donc vous payez le meilleur leader du monde. Voilà, c'est une réalité. Bon, il sait de quoi il parle, il est leader Dallas, non, Las Vegas, etc. Voilà, donc il faut s'y faire, il faut s'y faire. Je veux dire, l'idée, c'est pas que tout le monde nous aime, l'idée, c'est d'être un leader, être capable de leader, capable d'influencer, capable de tirer en avant les autres. Et donc ça s'apprend. Mais ceux qui sont contre nous, ils peuvent être beaucoup plus méchants qu'ils ne le sont naturellement, parce que il y a une volonté derrière de nous nuire lorsque nous sommes chrétiens. Donc le chrétien est particulièrement plus attaqué jusqu'à ce qu'il rétrograde. Vous connaissez la rétrogradation dans un véhicule, une voiture ? Tout le monde n'a peut-être pas le permis ici ou ne conduit pas. Ça veut dire quoi, rétrograder? Changer de vitesse dans quel sens? Ah, il faut le dire. Parce qu'il y a changer de vitesse en montant. Ça veut dire quoi, ça? C'est accélérer. Alors, je ne sais pas si c'est... décélérer, accélérer. Alors bon, je suis pas linguiste, donc voilà, tout ça, ça vient du grec ou du latin qui aide. Voilà. Donc il y a rétrograder et autograder, ou je sais pas. Enfin bon, voilà, monter de grade. Je sais pas comment ça se dit. C'est peut-être il y a Colette qui fait du grec, un terme qui dit l'inverse de rétrograder. Bon, peu importe. Donc quand on veut servir le Seigneur, on est supposé donc gradé vers voilà, montant des grades, dans le sens où on s'améliore. C.S. Lewis, que vous connaissez peut-être parce qu'il a écrit Narnia, enfin il a écrit des choses qui sont maintenant cinéma, tout ça, il a dit: un chrétien, ou il devient pire, ou il devient meilleur. C'est intéressant. C'est quand même un théologien. Il devient pire ou meilleur. Parce que c'est cette réalité qui, je viens d'évoquer, qui s'applique dans le combat spirituel. Il vient pire ou meilleur, c'est embêtant ça, parce qu'on peut devenir pire. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas faire un message là-dessus, mais c'est vrai que ça mériterait un développement ça. Mais bon, je vais m'arrêter là, parce que j'ai autre chose à dire. Donc on peut devenir pire ou meilleur, donc on peut rétrograder ou upgrader, voilà. Vous voyez, l'anglais est très facile, c'est up ou down. Upgrader. Pas besoin du grec, on utilise l'anglais. Upgrader. Donc on monte en vitesse jusqu'à ce qu'on atteigne, ce qu'on disait Olivier, notre destinée. Chercher à atteindre notre destinée. Sinon, en enfer, effectivement, on va regretter. Parce que, voilà, on dit, j'ai passé à côté de ma destinée. Donc on upgrade. Et sinon, on downgrade. Est-ce que vous voulez downgrader, donc rétrograder, ou upgrader? Upgrader, c'est bien. C'est bien, la motivation est bonne. Maintenant, le comment. Comment est-ce qu'on upgrade? Alors, on upgrade déjà, si vous venez chez Elsa dans le TQP, minute de publicité, voilà. Chercher la sanctification sans laquelle nul verra le Seigneur. Donc, se débarrasser de tous les liens, se débarrasser de toutes les formes de manque de liberté, de degré de liberté, etc. Donc, vous êtes capable, effectivement, de devenir meilleur. Mais le combat spirituel dans lequel nous sommes, c'est que Satan veut absolument qu'on descende la pente, qu'on downgrade, qu'on rétrograde. Et vous avez tous entendu parler des chrétiens rétrogrades. Il y a des gens, des chrétiens qui étaient très très zélés, très voilà, engagés avec le Seigneur, et qui d'un seul coup, eh bien, il y en a même qui perdent la foi. C'est quand même une réelle question. Comment ça se fait? Eh bien, parce qu'on est dans un combat spirituel. Et ce combat, j'aimerais vous dire qu'il a deux niveaux. Il a un niveau de combat dans le deuxième ciel et dans le premier ciel, dans lequel le Seigneur combat pour nous, dans le premier ou dans le deuxième ciel. Hello? Hello? Ah, je vois qu'il y a des visages qui se... C'est une énigme. En fait, depuis 1998, j'arrête pas de faire cet enseignement, pas tous les dimanches, bien sûr, sinon vous le sauriez par cœur, mais depuis 1998, j'arrête pas de parler de ça pour que vous compreniez bien lequel combat nous devons mener. Et aujourd'hui, il y a un grand danger des chrétiens qui ne comprennent pas ça et qui s'engagent dans des combats qui s'appellent des combats inutiles. Ils ont des blessures inutiles. Il y a d'ailleurs un livre que j'aime beaucoup, John Paul Jackson, qui dit « Le combat des blessures inutiles ». Et donc, ils s'engagent dans des combats qui ne sont pas les leurs. Alors, je reviens à ma question, puisque ça vous interpelle et que ça, visiblement, c'est pas encore passé. Dans quel combat Dieu, qui dit « Je suis un rempart hein, », ce chant que nous avons lu, je prends un chant de ce matin, « Tu es un rempart devant mes ennemis ». comment est-ce que ce rempart se forme et quel est le combat que Dieu mène pour nous dans le deuxième ciel. Parce qu'il y a un deuxième ciel et un premier ciel. Alors, le deuxième ciel, eh bien, vous l'avez dans le verset que Paul a lu au verset 12. Au verset 12, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs, les esprits du mal. » Là, il décrit les deux ciels, deuxième et premier ciel. Vous voyez, un premier ciel, c'est quoi ? C'est celui qu'on peut voir, voilà, il y a les avions, tout ça. Puis un deuxième ciel, puis un troisième ciel. Alors attention, les musulmans, ils parlent de sept ciels. Il y a des chrétiens qui parlent de sept ciels, ce n'est pas biblique. Parce que Paul est allé dans le troisième ciel. Il est ravi dans le troisième ciel. Dans le premier ciel, il y a quoi ? Spirituellement, je parle. Là, on est dans le spirituel, un combat spirituel. Dans le premier ciel, il y a quoi ? Hello ? Les démons. Dites tous les démons. Et dans le deuxième ciel, il y a quoi ? Ben, il y a ce que Paul dit. Les puissances, les principautés, les dominations. Vous voyez ? Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Il y a des chefs, et des sous-chefs, et des petits chefs, et des soldats. Voilà. Donc nous, on est harcelés par des soldats, qui sont les démons, qui sont sur la terre, enfin qui sont près de nous et qui veulent influencer notre mauvais caractère, notre mauvais comportement, voilà. Donc il amplifie, voilà. Et il n'a pas des droits comme ça n'importe comment, mais il amplifie. Si on les laisse venir, si on les aide un petit peu, ils sont ravis parce que voilà, ils peuvent jouer leur numéro et se jouer de nous. Donc ça c'est le premier ciel, c'est les démons. Est-ce que les démons, on peut combattre les démons? Hello ? Oui, oui, franc et massif, pourquoi ? Parce que Jésus l'a dit. Tous les évangiles disent, ils chasseront les démons en mon nom. Et il a donné cette mission à ses disciples de chasser les démons. Donc les démons, oui. C'est non seulement notre possibilité de le faire, mais c'est même une injonction, c'est un ordre. C'est, nous devons chasser les démons. Pas n'importe comment. Le TQP est là pour vous expliquer comment. Voilà. Désolé, mais il y a des cours particuliers qui sont là pour ça. On ne va pas faire des messages là-dessus. Suivez le TQP. Mais il y a d'autres puissances qui sont des puissances des principautés, comme son nom l'indique, des princes, qui sont dans le deuxième ciel. Alors, quels sont ceux qui ne savaient pas ça ? N'ayez pas peur, hein, ce n'est pas une honte. Mais voilà, ok. Donc je vais leur dire exprès ce que c'est. C'est exactement comme dans le domaine naturel. Dans le domaine naturel, il y a des leaders qui dirigent des régions, des pays, et même des empires. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a les citoyens. Et il y a ceux qui dirigent. Aujourd'hui, on est en élection présidentielle, on va élire un président qui a une autorité plus importante que chacun d'entre nous comme citoyen. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Et c'est ce que la Bible, pas simplement ce passage-là, hein, tous les passages bibliques parlent de principautés, des princes, des princesses. Enfin, sauf que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sexe. Hein, donc voilà, des princes, on reste neutre. Des principautés, des puissances, donc qui ont une puissance sur des domaines, sur des villes, sur des etc. Et des dominations. Alors, je vous renvoie, les Juifs se sont déjà posé ces questions. Vous voyez, c'est pas nouveau, hein, c'est pas chrétien. Et la Kabbale en particulier, non seulement parle de ça, mais elle ne parle que de ça presque. Voilà. Il les nomme et explique comment il faut faire, etc. Alors surtout, touchez pas à la Kabbale, je vous rassure, je ne le cite pas pour que vous fassiez de la Kabbale, mais c'est le principal sujet dont parle la Kabbale, pour pouvoir manipuler un petit peu tout ça. Mais surtout, ne faites pas ça, vous serez mort. Donc, ces principautés, ces dominations, ces puissances dont parle l'apôtre Paul, eh bien, c'est Dieu qui s'en charge. Voyez, c'est ça le combat de Dieu. C'est-à-dire que nous, on peut chasser les démons, même on est supposé le faire, de la bonne manière. C'est pour ça qu'on est tellement insistant sur le TQP, parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de chasser les démons. Il faut enlever les droits. Et les principautés, les puissances et les autorités, eh bien, c'est Dieu qui s'en charge. Alors je vous dis ça parce que je suis bien payé pour vous en parler. Parce qu'ici, ce n'est pas moi qui ai choisi ce lieu, c'est Dieu qui l'a choisi pour nous. Moi, avec tous les anciens, on avait choisi un lieu au Mureau. Et on y a travaillé pendant un an avec des architectes, des maîtres d'œuvre, etc. Et ça nous était refusé. Et c'est l'architecte qui a dit « Oh, je suis choqué de ce qu'ils vous ont fait, la mairie, etc. Et je pense avoir quelque chose pour vous. » C'était ce lieu, mais il ne l'avait pas dévoilé. Et c'est toute l'histoire de la création de cette église. Et quand on est arrivé ici, on a conduit l'église comme on a conduit l'église de maison qui était chez nous à Saint-Martin, qui se passait très bien. On est passé de quelques membres à 100 membres avec 50 enfants un petit peu partout chez nous. C'était un peu invivable. Et quand on est venu ici, on a continué comme si de rien n'était. Et là, le ciel a failli nous tomber sur la tête. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une principauté qui était là. Voilà. Et tout ça, on l'ignorait. Je l'ignorais en tout cas, je n'avais pas cette connaissance. Et j'ai dû faire face à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce qu'ici, la reine Elisabeth de Belgique venait ici. Vous voyez ? Il y a une correspondance entre les royautés terrestres et les royautés spirituelles. Il y a une correspondance. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités. Parce que les autorités qui doivent s'occuper d'un ensemble de citoyens, que ce soit ville, région ou pays, etc., ils ont plus d'attaques que vous, que moi. Voyez ? Parce qu'il y a des principautés qui s'en occupent. Parce qu'ils savent que si ils les influencent, eh bien, en dessous, il y a tout un tas de gens qui seront influencés dans le mauvais sens, bien sûr. Parce que lui, il ne veut pas nous sauver, il veut nous détruire. Donc, ces principautés, ces puissances, etc., existent. Et on a dû faire face ici. Et pendant 12 ans, on a dû se bagarrer. Et moi, j'ai failli perdre la vie avec cette bagarre, parce que je faisais venir des serviteurs d'un peu partout, de l'autre côté de la planète, qui nous ont mal orientés, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas, ils pensaient bien nous aider, et en fait, ils nous ont mal aidés. Et maintenant, on sait ce qu'il ne faut pas faire, et ce qu'il faut faire, parce qu'on a réussi. Et je ne sais plus la date, ça doit être le fin novembre 2001, bien, Abraham Keith avec Marc Brisebois, etc., qui était là. Cette puissance est manifestée et le Seigneur nous a donné la victoire parce que toute l'église du Mantois était réunie ce jour-là dans le sous-sol et voilà, c'était la grande victoire de l'église. Mais il faut que l'église, il faut que ce soit au niveau de l'église, ce n'est pas des individus, c'est au niveau de l'église, c'est un corps qui a une autorité. Voyez, donc tout ça, c'est en lien. Hein. Tout ça, c'est de la logique. Hein. Ceux qui aiment bien la logique, il n'y a rien d'illogique dans tout ça. C'est comme un combat naturel, sauf qu'il est spirituel. Alors je reviens à mon mouton. Paul commence par citer le fait que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les principautés, etc. Alors on pense que voilà, l'autorisation nous est donnée pour combattre ces puissances. Non, parce que après, hein, si on lit le texte. Après, eh bien, il explique bien que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et quand il dit toutes les armes de Dieu, c'est toutes les armes de Dieu. C'est que l'apôtre Paul, qui a écrit sous l'influence de la révélation du Saint-Esprit, il n'en a pas oublié une. Voyez. C'est pour ça qu'il y en a, il y a des chrétiens, des mouvements chrétiens aujourd'hui qui cherchent d'autres textes pour compléter, en disant, ouais, il y a une nouvelle révélation. Non, la révélation, elle est donnée là. Toutes les armes de Dieu. Et toutes les armes de Dieu, ça nous suffit, nous. Dieu, lui, a une stratégie, et qui est-ce qui combat ses puissances, ses principautés, etc. Ben, c'est les anges. Vous ne saviez pas qu'il y a des anges qui sont à notre disposition, que Dieu met à notre disposition ? C'est les anges. Nous, on n'a pas donné les ordres aux anges, c'est Dieu qui les donne, c'est Jésus. Mais ils sont là, Et c'est eux qui font le rempart contre ces puissances du deuxième ciel. Ok ? C'est bon ? Bon, il faudrait rentrer dans beaucoup de détails, hein, mais juste pour bien poser les choses. Donc, Dieu met les anges pour nous mettre en rempart contre ces principautés, ces puissances, etc., qui sont là. Mais nous, nous devons combattre avec les démons qui, eux, influencent notre caractère. Les différents éléments de nos caractères, et c'est ce qu'on fait dans le torrent qui purifie, dans les retraites, on se pose la question, quels sont les thèmes qu'on aborde, parce que c'est ces thèmes-là, parce qu'il y a tellement de thèmes à l'infini, qu'il faut se limiter sur une journée, et là, on va aider les chrétiens à avoir la victoire sur ces domaines de vie dont ils ont besoin. Et là, nous sommes comme ce soldat. Voyez-vous, alors, l'apôtre Paul, quand il a écrit, il était en prison et il était entouré de soldats. Voilà. Donc, il a pris cette image d'un soldat romain et il le décrit. Alors, à votre avis, est-ce que l'apôtre Paul décrit... Alors, attendez... Je ne suis pas encore habitué. Je suis habitué à la souris, mais pas à ce truc-là. C'est dingue, ça. Enfin, bref. Je voudrais le dégager. Il n'arrive pas à le dégager. Bon. Ah, c'est énervant. Est-ce que c'est ce soldat qui décrit ? Est-ce que c'est ce soldat qui décrit ? Ou est-ce que c'est l'autre soldat qui décrit ? J'ai demandé à Olivier de m'aider à manipuler ses souris parce que c'est un peu l'horreur. J'y arrive pas. Ça tout part. Est-ce que c'est ce soldat-là ou le soldat précédent ? Hello ? Hello ? Oui, mais j'y arrive pas. Olivier, vas-y, parce que j'en ai marre de me battre avec des souris qui ne marchent pas. Donc tu montres ce soldat-là et l'autre soldat. Voilà. Ce soldat-là, alors dégage parce que j'y arrive pas. Non, non, tu l'enlèves pas. C'est bon, tu le... Voilà. Ah, mais voilà, il arrive du premier coup. Ou celui-là. Bon, peu importe. Voilà. Qui les voit sur l'écran. Là. Voilà. Est-ce que... Ben voilà, vous voyez l'informaticien. Il faut toujours être aidé. Mais, oui, mais je reconnais. Chapeau. Est-ce que c'est celui à gauche ou celui à droite ? Hello ? Hello ? Pourquoi ? Pourquoi ? Waouh ! Ah, j'ai réussi mon coup là. C'est le brouhaha, le total là. Alors, on va faire un vote. Ceux qui sont le soldat d'Éphésiens 6 là. Ceux qui sont pour celui de droite, levez la main. Ceux qui sont pour le soldat de gauche, levez la main. Voilà. Et, bon, il y a quand même la majorité, mais... Il y en a qui votent blanc. Ah, c'est les sages, là. C'est les sages. Abstention. Donc, ça mérite un peu d'explication. C'est quoi la différence entre les deux soldats ? Voilà. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont plus équipés, d'autres qui disent qu'il y a voilà, l'épée, etc. Tout d'abord, Olivier, t'en vas pas trop vite parce qu'il y a d'autres images là. Et je veux pas manipuler ça, j'y arrive pas. Vous voyez, là, il faudrait que je vous envoie Michel de faire le prêche pour tous les détails. Vous voyez, comme là, il faut être dans les détails. Regarde, il y en a un autre que je voudrais que tu montres. Je sais plus où il est derrière. Bon, j'ai oublié ce matin de télécharger un autre qui, en général, vous auriez dit tous oui à 100%. C'est bête. Pourquoi ? Non, c'est pas la bonne réponse. Bon, Olivier veut peut-être le trouver sur Internet, je ne sais pas. Pourtant, il y a des chrétiens ici qui sont de longue date. Hein. Ouais. Mais je savais que je les ai vous piégés. Pardon ? Non, 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 non. Il y a un élément, il y a un élément, il y a un seul qui fait la différence. Alors, voilà. En général, trouve-moi un gladiateur là. Tu mets gladiateur ou voilà. En général, tous les chrétiens, enfin tous les sites internet et bazars, etc., ils présentent un soldat qui montre celui-là là, tiens. Ah, ouais, c'est bien l'interaction. Hein, c'est... Voilà. En général, c'est celui-là. Vous êtes d'accord? Oh. The sword of the spirit. L'épée de l'esprit. Okay. Pardon? Oui, ok. Bon. Admettons. En admettant qu'ils trouvent quelqu'un avec un bouclier, je ne sais pas si ça existe. En général, c'est ce genre de soldat qui est pris comme symbole, comme image de Éphésiens 6. Vous êtes d'accord ou pas? Mettez le bouclier avec. Hein, c'est parce que je... Voilà. Non, non. Ok. Bon, ma présentation est foutue, désolé, je suis un mauvais leader, je n'ai pas trouvé. Voilà. Ok. Je voulais vous montrer celui qui est pris d'habitude dans tous les milieux chrétiens, dans tous les trucs, qui est le Romain avec l'épée, comme ça, voilà. Peut-être tu trouves un gladiateur qui font, voilà. Et c'est cette image-là qu'on prend et qui est fausse, qui justement fait la différence entre le premier et le deuxième ciel. On a l'habitude de penser que, on verrait les autres armes, mais l'arme de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire l'arme du glaive, hein, le glaive qui sert à se battre, en fait, c'est pas ça que Paul décrit. Il ne décrit pas un gladiateur au moment où il écrit un soldat romain qu'il voit tous les jours dans la prison, qu'il rencontre, etc., et qui est le soldat de base. Parce que les gladiateurs, parce que cette épée-là, c'est une épée du Moyen-Âge, etc., qui à l'époque était très très lourde et très chère. Donc elle n'était réservée qu'à certains. On ne pouvait pas distribuer des épées comme ça à tous les soldats. Oui. Donc ce sont des Romains qui étaient dans la haute hiérarchie, etc., des chefs, etc., qui avaient des épées. Okay. Donc c'est pas ça que Paul décrit. Il décrit le Romain. Alors maintenant tu remets, tant pis, hein, si on trouve, tu trouves. Voilà. Donc juste pour dire que c'est pas ça. C'est pas ces épées-là hein, que Paul décrit, la cuirasse, c'est celui-là. Voilà. C'est pas l'autre non plus, montre celui avec la lance. Voilà. Il ne décrit pas ni celui-là, celui-là il a la lance, mais il décrit celui-là. C'est quoi la différence? Je vais vous donner un mot magique qui va vous aider à comprendre. Soit on est dans l'offensif ou le défensif. Vous voyez ? C'est un combat défensif que Dieu nous demande, pas un combat offensif. Nous n'avons pas à combattre les puissances, les principautés spirituelles de manière offensive. Toutes les armes que Paul décrit sont des armes défensives. Parce que Dieu nous défend, mais en rempart devant nous. Voyez-vous ? Donc ça nous donne du repos. D'une certaine manière. Alors qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent avoir un combat offensif avec la lance. Quand les Romains attaquaient, ils avaient les lances. Il y a une autre image, peut-être, qui trouve sur le bureau. On voit les boucliers et les lances qui sortent. Effectivement, c'est la lance qui permettait d'avancer. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient, les Romains, parce qu'ils étaient comme un bouclier. Ils marchaient même en quart rond. Donc, du coup, toutes les flèches, les machins, même au-dessus, tout ça, lisez Astérix. Hein, il a très, très bien écrit. Il a fait un travail historique très important. C'est comme ça qu'ils attaquaient. Mais Dieu ne nous demande pas d'attaquer les puissances. Hello ? Voyez-vous, le point aujourd'hui, c'est ça. Dieu ne nous demande pas d'attaquer. Il nous protège et c'est les anges qui attaquent. Voyez ? C'est les anges qui sont le Romain avec la lance. Ouais, comme ça. Voyez ? Ça, c'est des anges qui mettent devant nous et qui, eux, attaquent l'ennemi. Parce que attention, hein, c'est un ennemi qui est puissant. Et qui n'a pas, c'est pas de, comment on appelle ça, les tirs de punching ball, là, les trucs pour s'amuser, paintball, voilà. C'est pas du paintball, hein. C'est des vrais boulets qui vous détruisent, qui vous mettent à mort. Donc il faut des vraies armes, et c'est les anges qui le font. Donc les anges, ils sont comme ça, eux ils ont des lances, mais nous on n'a pas de lance. L'apôtre Paul dit que l'épée de l'esprit, c'est pas une épée qu'on utilise pour proclamer ouais, « Dieu va faire ça, Dieu va faire ça, j'écrase Satan sur mes pieds, etc. » avec la parole de Dieu, etc. Ça, mes amis, faites jamais ça, vous serez morts. Parce que c'est défendu par la parole de Dieu. Par contre, avoir ici le Romain là, qui a ce qu'on appelle une dague. Hein, une dague. Alors, vous voyez, là, j'invente rien quand je vous dis ça, parce que j'ai vérifié dans le grec. Hein. Même si je ne peux pas littéraire, je peux quand même vérifier dans le grec. Et le grec, il utilise un mot grec pour cet instrument qui est machéra. Machéra, un peu comme une machette. M-A-C-H-I-R-A. C'est ça le mot qui est utilisé dans le mot épée de l'esprit. Ce n'est pas une épée. Problème de la traduction qui nous emmène vers les gladiateurs. C'est l'épée, la machéra. C'est une petite épée courbe, étroite, pour pénétrer dans la viande. En général, ils l'utilisaient d'ailleurs pour manger tous les jours. Vous voyez, ils lacéraient la viande, ça leur permettait aussi de manger. Voilà, c'est simple que ça. Et c'est un outil de combat de proximité, de corps à corps. C'est-à-dire quand l'ennemi passait. Passer la ligne des épées qui étaient lancées et qu'à un moment donné ils étaient submergés parce qu'ils étaient trop grand nombre, ils venaient sur eux et c'est là qu'ils sortaient cette épée et ils faisaient du corps à corps. Et ça, c'est le combat spirituel de premier niveau, de premier ciel avec les démons. Ça oui, il faut qu'on se batte contre les démons qui veulent nous attaquer, mais quand ils viennent sur nous, pas quand ils sont sur des villes, des cités, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un interdit dans la Bible, et puis surtout, pas recommandé, parce que Dieu sait que on va pas avoir la victoire. Sauf si exceptionnellement Dieu le demande, mais alors là, c'est des exceptions tellement rares qu'il faut avoir un tas de conditions qui sont remplies. Donc, vous voyez, la différence entre les deux, c'est que là, il est offensif, et là, il est défensif. Et c'est cette armure-là que Dieu décrit. Est-ce que les enfants sont prêts là, Charles, les enfants sont prêts ou pas? Non, c'est pour pouvoir gérer mon temps parce que bientôt c'est fini et je ne les vois pas arriver. Parce que normalement les enfants ont préparé quelque chose pour vous. Voilà. C'est cette armure-là. Alors, j'ai pas le temps maintenant puisque j'ai passé pas mal de temps sur cet outil, sur cette arme-là. Passer sur les autres, j'ai pas trop le temps. Mais j'aurais resté sur cette machéra, sur cette petite épée, cette petite, c'est une sorte de couteau, voilà, un couteau, qui est un combat de proximité. C'est un combat offensif. Et la parole de Dieu doit toujours rester un combat offensif. Jésus, rappelez-vous, défensif. Merci. Il doit être défensif. Oui ? Oui, défensif, excusez-moi. Non, parce que je pensais déjà à la phrase que j'allais dire après. Donc, combat défensif. Même Jésus, quand il était confronté à Satan lui-même, il est resté défensif. Quand Satan lui a dit, voilà, les pierres remplacées en pain, etc., il a dit, il est écrit. Il a utilisé la parole de Dieu, il est écrit. Il n'a pas dit, ouais, toi, ceci, cela. Il n'a pas traité tous les noms. D'ailleurs, il est marqué que Moïse était respectueux de Satan. Ouais. Parce que c'est Dieu qui s'occupe de Satan. Même Jésus, il a repoussé Satan en utilisant la parole, en disant, il est écrit. Il n'a pas dit, voilà, je proclame maintenant, voilà, t'es mort. Non, parce qu'il l'a cloué, c'est à la croix hein, qu'il a eu la victoire. C'est dans l'humilité. Ce n'est pas dans le boasting, dans il est un grand homme, etc. Les disciples auraient bien voulu ça, hein, c'est ce qu'ils attendaient de Jésus. Mais ce n'était pas ce que Jésus allait faire. Et nous sommes sous cette juridiction où Jésus, il n'est pas revenu. Et tant qu'il n'est pas revenu, nous sommes dans la même condition que les premiers apôtres. Il n'y a rien de changé. Nous devons nous défendre quand l'ennemi vient sur nous, et ça c'est les démons, parce que les autres, Dieu les arrête avant qu'on vienne. Ne soyez pas dans une paranoïa. Voilà. Là, c'est vous rentrez dans un domaine qui vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Dieu nous protège de toutes ces agressions qui sont bien plus fortes que nous, parce qu'il l'a promis. Et parce qu'il ne permettra pas à une puissance ou une principauté de vous atteindre. D'ailleurs, ils vont pas s'amuser à ça, parce que, s'ils descendent, ils peuvent plus remonter. Ça, c'est un autre enseignement que je pourrais donner. Voilà, et ça produit des réveils, etc. Mais en même temps, ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils envoient juste quelques démons, et puis ils viennent sur vous. Et puis voilà, si vous êtes en colère, vous développez une colère, vous avez des démons de colère, et puis vous avez des démons de colère. Et puis après, voilà, ça va amplifier, etc. Et voilà, donc nous, c'est d'enlever les droits à l'ennemi. Donc nous purifier, nous dire, voilà, j'ai un seul caractère là, je le sais, tout le monde me dit, je veux en sortir, donc je veux, parce que sinon, ça va s'amplifier. Vous voyez, tout ça, c'est l'enseignement du torrent qui purifie. Donc cette dague, que j'appellerais plutôt une dague, eh bien, est ce qui est décrit dans la parole de Dieu. Je te remercie. Est-ce que les enfants sont prêts ou pas? Oui. Ok. Alors les enfants ont préparé cette intervention que vous allez voir maintenant, qui illustre en fait ce combat, cette armure qu'il nous est demandé de nous revêtir de toutes ces armes de Dieu, avec le détail que je mentionnais, tous les autres, on les a tous en tête, et on va laisser les enfants s'exprimer maintenant.
Alors, depuis quelques semaines, nous sommes en train de préparer notre armure. Donc, du coup, les enfants, ils vont vous présenter l'armure. Il faudra bien dire ce que c'est aussi. Donc, nous avons le casque du... On n'entend pas. Oui. Ensuite, nous avons le bouclier de la... Oui. La cuirasse de la... Très bien. Les chaussures du... La ceinture de la... Oui. Et... Ça m'a pas dit. L'épée...
La parole.
Voilà.
Je suis désolé, ils ont pas pu la réduire parce que j'ai prévenu les monitrices que ça c'est pas bon, mais voilà, vous avez compris. Ça devrait être plus petit parce que ça justement, ça montre bien que c'est ça qu'on a en tête, vous voyez. Voilà. Or ça c'est faux parce que ça donne l'image de combattre dans le deuxième ciel alors qu'on combat les démons et pas les principautés. Voilà. Bon, c'est un détail mais qui a son importance. On les applaudit. Vous restez là juste pour résumer rapidement. Donc il y a trois éléments de l'armure qui sont des façons de vivre. Il y a la cuirasse, non, il y a la ceinture. Montrez votre ceinture là. Alors la ceinture, ça renvoie au fait qu'on devient vigilant. Voyez-vous, quand les Romains mettaient la ceinture, avant ils n'avaient pas de ceinture, donc ils étaient détendus. Vous aimez bien être détendu dans votre fauteuil, voilà. Eh bien, c'est détendu. Et quand on va au combat, il faut mettre une ceinture, surtout quand on a les tauges, etc. Voilà. Donc l'idée de la ceinture, c'est on est prêt au combat. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts au combat? Levez la main. Voilà, prêt à combattre. Deuxièmement, la cuirasse. Montrez la cuirasse. La cuirasse. Alors la cuirasse protège le cœur. J'aime bien la cuirasse, le mot qui est utilisé en anglais. C'est pas la justice, c'est righteousness. C'est quoi righteousness en français? Alors la droiture, moi je le comprends pas. Donc j'ai regardé le dictionnaire. C'est dikaiosune en grec. C'est un état de celui qui est comme il doit être. C'est une doctrine qui concerne le chemin pour atteindre un état que Dieu approuve. C'est un état. Et on doit être dans cet état. Parce que droiture, voilà, c'est un état. Et c'est une intégrité, une pureté de vie, une droiture de pensée et des actions correctes. Donc, c'est un combat. C'est-à-dire qu'on doit protéger notre cœur par l'attitude de chrétien qui est intègre. Et donc, on rejoint le leadership, Simon Sinek, qui va en parler, qui parle de cette attitude d'être comme Dieu veut que nous soyons. Et là, nous sommes protégés, voyez. C'est toujours défensif, hein, c'est pas offensif, c'est défensif. C'est nous protégeons. Voilà. Ensuite, les chaussures. Montrez vos chaussures. Les chaussures du zèle de l'évangile. Voyez-vous, c'est une attitude que nous devons avoir pour partager la bonne nouvelle avec ceux qui sont autour de nous. Ensuite, il y a trois autres armes qui sont des façons de penser. La quatrième, donc cette première arme qui est la quatrième, c'est le bouclier. Montrez le bouclier. Bouclier, voilà. Et ça sert à quoi le bouclier? Arrêtez les flèches. Donc tu mets comme ça. Tiens-le. Tu fais comme ça. Quand il y a des flèches qui viennent, d'accord? Il faut être agile, hein, mais quand il y a une flèche qui vient, hop, on arrête les flèches, voyez? Donc ça, c'est une attitude de pensée. Je vois la flèche et je l'arrête. Ok? Flèche enflammée du malin. Ensuite, il y a le casque. Montrez votre casque. Voilà. Le casque du salut. Et le casque, ça protège quoi? Ça protège les pensées. Les pensées. Donc là, on est renvoyé au paradigme, façon de penser, etc. Romains 12, changez, soyez renouvelés dans votre intelligence. Voyez, donc nous sommes aussi dans le défensif, où nous occupons de nous, et pas des puissances qui sont à l'extérieur. Hein. Nous devons changer nos pensées. Et alors là, nous allons penser comme Dieu. Et nous n'allons pas être dans les paranos, etc. Nous allons être dans Dieu me protège et je sais en qui j'ai cru, etc. Vous voyez, vous êtes fort dans le Seigneur, etc. C'est vous qui devez vous fortifier. Jésus a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ça, les armes défensives. Et l'autre qui est après le casque, c'est effectivement l'épée de l'esprit, qui est la dague, hein, qui devrait être toute petite, là, qui est là. Qui est là et qui sort voilà pour manger, pour se nourrir, pour découper les viandes, etc. Et pour faire du corps à corps, hein, quand il est quelqu'un, baf, il le tue en corps à corps. Il peut pas le tuer loin, il le tue en corps à corps. Et ça, c'est les démons, c'est les esprits qui sont. Et ça, c'est six armes. Et la dernière arme, c'est quoi? La septième, Je le panique là. Et septième arme, c'est? C'est quoi? Mince alors. La septième arme. La prière. Dites tous la prière. C'est une arme, effectivement, qui n'est pas représentée par un soldat, mais que Paul rajoute en disant la prière. Et c'est quel type de prière? Allô? C'est quel type de prière? Bah, lisez vos Bibles, c'est marqué. J'ai inventé rien. Priez en tout temps. Dites en tout. Priez en tout. Même quand vous êtes en vacances? Même que vous êtes à l'étranger? Même que vous êtes en voiture? Même que vous êtes en avion? Même que vous êtes en bateau? Priez en tout. Vous voyez, c'est une, ça aussi, c'est une arme. Et avec toutes sortes de prières et de supplications. Là, j'ai pas le temps, c'est tout un message aussi sur différents types de prières. Prière de proclamation, prière en langue, prière d'intercession, prière, etc. Donc on fera ça un petit peu plus en détail une autre fois. Et c'est marqué « Veillez-y » avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Voyez-vous, très souvent, on oublie cette arme, qui bien sûr n'est pas celle du soldat romain, mais que l'apôtre rajoute comme étant justement cette prière défensive et pas offensive. Il ne dit pas de prier pour lier les esprits dans le deuxième ciel, pour lier telle puissance, etc. Laissez ça à Dieu. Dieu est votre Père. Dieu est votre papa, comme on l'a dit ce matin. Et votre papa, il vous défend et il s'occupe de vous. Si vous avez des attaques que vous ne comprenez pas, ne les imputez pas à quoi que ce soit, votre imagination, quoi que ce soit. La parole de Dieu dit, Dieu vous protège. Par contre, les démons, oui. Les démons, oui. Mais c'est des attaques de proximité. Et les attaques de proximité, eh bien, on a les armes ici et la prière qui termine. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, te demandons ta grâce et nous te remercions pour ces enfants qui ont travaillé ce message, qui puissent aussi à leur niveau déjà comprendre, Seigneur, qu'ils sont protégés et qu'ils doivent utiliser ces armes comme des armes défensives et pas offensives, et surtout pas la parole de Dieu pour taper sur les autres. Et Seigneur, qu'ils puissent l'utiliser comme une arme qui les aide à grandir dans la parole de Dieu, de manière à la mettre en pratique. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et Seigneur, que chacun de nous, ce matin, s'il y a une chose à retenir, c'est en effet que nous devons garder ta parole et la mettre en pratique, afin que nous vivions par elle. Amen.